Mirage.
Jacques Pradel, comme d'habitude, une émission insolite, mais j'ai annoncé au début de cette soirée, lorsque je faisais le générique de l'émission, j'ai annoncé que vous nous réserviez une surprise. Je n'ai pas dit laquelle. D'ailleurs, je ne le dirai pas maintenant, c'est à vous qu'il appartient de le dévoiler. Je dirai simplement que c'est une surprise très intéressante, très enrichissante et en même temps fort agréable à entendre.
Oui, une émission peut-être un tout petit peu différente de celle que ceux qui écoutent France Inter à cette heure-ci ont l'habitude d'entendre. C'est qu'en général, depuis quelques semaines maintenant, on parle ici de ce qu'il est convenu d'appeler le paranormal. C'est-à-dire, tout simplement, on parle de ce que j'appelle, moi, la face cachée de la vie des gens. De ces événements insolites, bizarres, qui viennent parfois nous dire qu'il n'y a pas que le concret, qu'il n'y a pas que la matière, qu'il n'y a pas que le travail, ni la vie raisonnable. Vous savez, ces émissions, moi, je ne les fais pas du tout pour prouver quelque chose, ni pour dire, d'ailleurs, à ceux qui écoutent, prenez votre mal en patience, la vie sur Terre, ce n'est qu'un passage, souffrez, etc., laissez-vous faire, et puis, vous verrez, ça ira mieux après. Bon, ce n'est pas du tout ça. Je crois que c'est facile aussi de nier ce qu'on ne peut pas expliquer par les moyens qui sont les nôtres actuellement. Ce que je veux dire, moi, ici, chaque dimanche, c'est qu'il y a peut-être un pont entre l'intérieur des choses ou des gens et l'extérieur, et qu'en se mettant à l'écoute, en sachant se mettre à l'écoute d'une autre réalité, eh bien, ça peut permettre aux gens d'élargir leur conscience, tout simplement. Et si tant de gens, vous savez, militent contre le paranormal, bien c'est parce que le paranormal, l'irrationnel, comme il dit, ça dérange, ça ne parle pas le même langage stéréotypé qui circule dans le monde qu'on nous a fait. L'irrationnel, ça fait des pieds de nez à la science, mais l'irrationnel, ça fait aussi des pieds de nez à la politique, parfois. L'attitude la plus paranormale en ce moment, à mon avis, bah, on la dissèque tous les matins, on l'analyse, on la triture tous les jours dans les journaux, à la radio, à la télévision. Ce qui se passe en Iran, voyez-vous, je trouve que c'est complètement paranormal. Et on s'aperçoit qu'à force de classifier, de théoriser, de rationaliser, eh bien, un jour, on est complètement désarmé devant une attitude irrationnelle. Alors, évidemment, ce n'est pas le propos de cette émission de parler de ce qui se passe actuellement en Iran, mais quand même, à force de s'asseoir sur l'imagination des gens, sur les histoires de revenants, de fantômes, de prémonitions, de voyances, à force de dire aux gens qu'il n'y a qu'une seule réalité concrète, on s'aperçoit que l'irrationnel, eh bien, il se manifeste quand même envers et contre tout. Et à mon avis, c'est ça, la véritable culture. La véritable culture, c'est pas une scène de théâtre dressée à l'intérieur d'une usine. La véritable culture, elle est dans la tête des gens, et souvent des gens qui n'ont pas de diplôme. Et c'est ce que tout au long de l'année dernière, on avait essayé de faire avec Henri Gougaud dans ses émissions qui portaient déjà un petit peu sur les mêmes sujets. Et jamais, jamais, au grand jamais, nous n'avons fait comparaître ceux qui avaient vécu un événement insolite ou irrationnel devant une sorte de tribunal. Jamais nous n'avons fait de table ronde avec des spécialistes pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Je crois que quand on ne peut pas prouver le mouvement, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de marcher. Et bah, c'est ce que je propose à ceux qui écoutent cette émission de faire. Et ce soir, effectivement, je vais vous faire entendre quelques enregistrements où il va être question de coïncidences bizarres, de rêves prémonitoires, de revenants, de fantômes. Et pour en parler, figurez-vous, je n'ai pas demandé à un spécialiste, à un homme en blouse blanche de venir, mais à un poète, parce que seuls les poètes, à mon avis, sont capables de trouver le vrai qu'il y a dans le faux et de voir le faux qu'il y a souvent dans le vrai. Mon invité ce soir, c'est Léo Ferré.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique, et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, en employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui damnent le plomb au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. Se bat.
Bonsoir, Léo Ferré.
Bonsoir.
Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit au tout début de cette émission?
Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, vous avez trouvé, je pense, ce qu'il faut dire. Puis moi, je n'en sais pas assez sur votre propos pour m'exprimer à propos de votre papier. Mais vous avez raison. Vous savez, lorsque on s'assoit longtemps sur l'imagination des gens, le jour où des circonstances font qu'ils s'en aperçoivent, ils peuvent vous foutre en l'air et puis commencer à imaginer. C'est un peu peut-être ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans
un certain monde. Ce que vous disiez aussi dans ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Alors je voudrais dire aussi que vous n'êtes pas venu tout seul, mais avec Jean-Roger Cossimon qui est là. Bonsoir Jean-Roger Cossimon. Et qu'on va parler évidemment des sujets qui sont un petit peu les nôtres dans cette émission, c'est-à-dire de tout ce qu'on qualifie en général d'irrationnel, de bizarre, mais qui pourtant est vécu par des tas de gens et qui ne sont pas forcément des menteurs. Alors je crois qu'effectivement quand on ne peut pas prouver un événement irrationnel, le mieux c'est d'essayer d'additionner les témoignages et puis de se rendre compte qu'un petit peu partout dans le monde, dans tous les pays et à toutes les époques finalement, on vit des choses qui ne sont pas courantes. J'ai reçu l'année dernière une lettre dans l'émission qu'on faisait avec Henri Gougaud ici, et c'est une coïncidence bizarre. Je vous la raconte parce que je sais que vous avez vous-même vécu il n'y a pas si longtemps que ça une série de coïncidences dont vous allez nous parler. C'est une très belle histoire en plus. Cette lettre, c'est une jeune femme qui nous l'a envoyée. Quand elle était petite fille, quand elle avait 10 ou 11 ans, dans le village où elle habitait, il y avait un petit garçon qui avait son âge et qu'elle ne connaissait pas, à qui elle n'a jamais parlé. Ce petit garçon la suivait un petit peu partout à la trace, à l'église, il se mettait 2-3 chaises derrière elle. Et puis, c'était son grand amour d'enfant, mais il était tellement timide qu'il n'avait jamais osé le dire, cette jeune fille, qu'il l'aimait finalement. Et puis le temps a passé, et puis ils se sont perdus de vue. Et un jour, alors que cette jeune fille avait 17-18 ans, on lui a dit, est-ce que tu connais Jules? Jules, tu te souviens ce petit garçon qui, quand tu avais 10-11 ans, n'arrêtait pas de parler de toi, tout le monde voulait te rencontrer? Eh bien, Jules est très malade. Jules va partir dans le sud de la France, en sanatorium, et il a exprimé un désir, c'est de te rencontrer, enfin, de pouvoir te voir. Alors elle lui a donné rendez-vous à son bureau. Et puis là, le garçon s'est trompé. Il a suivi quelqu'un d'autre. Et comme il était très timide, il n'a pas osé revenir et se renseigner pour savoir où était donc la jeune fille qu'il voulait voir. Et il est parti en sanatorium. Et puis elle n'a plus jamais entendu parler de lui. Et un jour, un après-midi, elle était en train de faire la lessive dans la cuisine de sa maison. Et sa mère l'a appelée dans une autre pièce. Alors elle a laissé sa cuvette avec sa lessive en plan. Elle est partie. Et lorsqu'elle est revenue dans cette cuisine, il était 4 heures de l'après-midi. C'était un samedi. Elle a vu que l'eau s'était... La mousse s'était retirée sur le pourtour de la cuvette. Il y avait un petit peu d'eau au milieu et puis une frange d'écume. Et ça faisait un cœur. Et elle a appelé sa mère et tous ses frères, ses sœurs en disant, venez voir comme c'est formidable, il y a un cœur. Et sa mère lui a dit, ça doit être un bon signe. Et l'histoire est un petit peu malheureuse, elle se termine mal, mais je pense que vous l'avez imaginé déjà. Oui. Ce garçon est mort effectivement ce samedi-là à 4 heures.
Terrible.
Ah, une coïncidence tout à fait étrange. Vous-même, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la coïncidence qui vous a le plus frappé récemment, parce que...
Je pense, on a l'habitude, lorsqu'on ne comprend pas, et d'ailleurs vous le savez, les choses, on dit, oh, c'était une coïncidence. Mais, ou alors c'est le hasard. Mais je pense qu'il y a des choses qui arrivent qui sont beaucoup plus, beaucoup plus rares. Que mettons, c'est simple à dire et c'est bébête, mais les gens comprennent que de gagner un gros lot extraordinaire. Par exemple, moi je vais vous raconter, je vais essayer d'être court parce que c'est une histoire qui m'a envahi et qui m'a fait beaucoup d'impression, sans que cela m'ait fait peur du tout. Mais d'ailleurs, je disais un peu du friend tout à l'heure qu'il s'agissait de M. Toublan. Il m'a dit que je chantais M. Toublan en 48.
Tu chantais ça au Côte-Libette, dans la cave.
Oui. En 47, j'ai écrit une chanson qui s'appelle M. Toublan. À propos de ce pape qui s'appelait Pie XII, je trouve qu'il avait eu une attitude, mettons, je suis modeste, de non-intervention sous l'occupation qui était gênante. Mm-hmm. Et bon, j'ai dit ça. C'est peut-être par ce fait-là qu'on dit que moi j'envoie des messages. Mais si c'est un message, alors d'accord, vous comprenez. Et je dois le faire. Et alors, j'ai chanté cette chanson au piano, je m'accompagnais au piano pendant 3, 4 ans, 5 ans. Après, j'ai quitté le piano, j'ai chanté debout, dans les music-halls, j'ai été accompagné par un pianiste, et je n'ai plus chanté cette chanson. On a réenregistré cette chanson avec orchestre d'une autre maison de disques en 72. Je l'ai chanté une fois à Bobino, et puis voilà. On ne me demande jamais de chanson. Quand on demande une chanson, je ne sais pas encore maintenant, on ne me demande pas beaucoup. Les gens comme ça, ils écoutent bien, et puis ils sont respectueux. J'aime pas ce mot-là, mais enfin, des fois, ça fait du bien au cœur que les gens vous respectent, n'est-ce pas, comme je respecte les autres. Et en 78, pour la cinquième fois, j'étais appelé dans une province de France qui est le Lot pour rencontrer un personnage officiel qui m'avait convoqué. J'étais obligé d'y aller. Et vraiment, ça m'ennuyait beaucoup. Et parce que je faisais 1200 km en voiture pour aller voir ce type, n'est-ce pas? Bon. Et alors j'ai téléphoné à mon ami Richard Marsan qui s'occupe de mes affaires. Je lui ai dit, écoute, fais-moi chanter dans ce coin-là. Il a téléphoné à quelqu'un avec qui on travaille et j'ai chanté. Il a réuni une chose et je devais chanter le 27 septembre 1978 à Agen, à Périgueux, le 28 à Agen, le 29 à Carcassonne. Et le 29 dans l'après-midi, je rencontrais ce personnage dont je vous parlais à l'instant. Le 27, je chante à Périgueux, une salle de 1000 personnes, une salle pleine, on avait refusé du monde, donc c'était bien organisé, vous comprenez. Bon, et j'étais content. Je n'aurais pas été chanté s'il n'avait pas été question que je rencontre encore ce personnage pour la cinquième fois. Le lendemain, 28, je chantais à Agen, dans une salle aussi pleine, salle très silencieuse. Je chante sans entracte, et mon tour de chant durait 2h20. 20 minutes ou un quart d'heure avant la fin de mon tour de chant, j'ai une chanson qui s'appelle « C'est fantastique » et qui commence, je pense que c'est important, qui dit au début « Je suis l'ordinateur de ton ordre profond, je suis le transistor de tes transits funèbres. Quand je passe, on dirait que tu viens des ténèbres et que de mon soleil te tire ta raison. » Il y a une introduction, pas longue, mais enfin, peut-être un petit peu plus longue que les autres. Mmh. Pendant cette introduction, j'attends. Et à ce moment-là, j'entends une voix d'un homme entre 75 et 80 ans, une voix âgée, vous comprenez, qui me dit « Monsieur Toublan ». Il me réclame donc la chanson. J'ai juste eu le temps de répondre, avant que l'introduction ne finisse, une chose qui m'a paru être une bêtise, et j'ai été honteux, puis je ne pouvais rien faire, parce que je ne pouvais plus rattraper ce que j'avais dit. Quand il m'a dit « Monsieur Toublan », j'ai juste le temps de dire « Oh, maintenant, il est tout noir ». C'était le 28 septembre, le lendemain matin. Marie me réveille à l'hôtel à 10h. Elle me dit, tu sais, le pape Jean-Paul Ier, qui a régné un mois, est mort, on ne sait pas, parce qu'il était seul, hier soir, entre 11h et 11h30, et moi, ça s'est passé à 11h25. Voilà.
enfants.
Comme coïncidence, on ne peut pas rêver mieux. Oui. Ce qu'on appelle une coïncidence exagérée, en tout cas, oui, moins qu'on puisse dire.
Une prémonition.
Jean-Roger Cossimon, dans un petit instant, Léo Ferrette va vous faire une surprise. Je crois que vous êtes au courant, de toute façon, de ce qui va se passer. Mais avant qu'on parle de cette chanson, est-ce que vous avez vous-même vécu dans votre vie des événements comme ça, du type de ceux dont on parle
comme
souvent
tout le monde,
ici?
Je ne pense pas apporter quelque chose de très original en disant que j'ai pu connaître tout à coup, dans le sommeil, l'agonie, la mort d'être très proche. Cela m'est arrivé pour mon grand-père, qui était apparemment en très bonne santé et qui a été emporté par une embolie. C'est un réveil très, très brusque, sans raison apparente. Et naturellement, j'ai regardé l'heure, et lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle, je savais, à ce réveil-là, je savais que mon grand-père avait quitté ce monde. Et c'est arrivé également pour ma mère. Mais je pense que parmi les auditeurs, il y a certainement énormément, un pourcentage très fort.
C'est très, très fréquent.
De ces cas-là. Mmh. Je voudrais passer sur ce sujet intime et qui me trouble un petit peu, en vous rapportant un souvenir de lycéen. J'ai toujours eu des difficultés extrêmes avec la géométrie dans l'espace, dont mon professeur de mathématiques me disait que c'était l'expression la plus pure de la poésie, et parce qu'il savait déjà que j'avais un petit penchant pour l'écriture. Et j'étais très, avant l'épreuve de la veille de l'épreuve de cette épreuve de mathématiques du baccalauréat, j'ai dit bon, je me suis résigné, j'étais absolument fataliste, et j'ai dit advienne que pourra. Et puis je me suis couché, j'ai dormi, et j'ai rêvé tronc de cône. Ah, tronc de cône, je me réveille le matin, tronc de cône. Comme j'allais au lycée à pied, j'avais à peu près 20 minutes de marche, j'ai emporté mon livre. Et j'ai appris, comme j'ai une excellente mémoire, j'ai appris le tronc de cône de la première ligue à la dernière. Et j'ai dit, mon Dieu, viens. Et j'ouvre ce papier où il y a trois épreuves, et je vois le premier tronc de cône. Alors, ce qui m'a permis d'avoir une note vraiment incroyable dans un truc où j'étais absolument minable. Alors, je pense quand même qu'il y a assez peut-être autre chose qu'un hasard. Et puis j'ai d'autres histoires, mais peut-être je vous raconterai ça tout à l'heure.
Oui, on aura le temps d'en parler. Et puis moi, je vous ferai entendre d'ailleurs quelques enregistrements que j'ai sélectionnés. Je vous donnerai un peu vos réactions. Léo Ferré, si vous voulez, on peut aller vers le piano qui est dans ce studio pour la surprise dont je parlais il y a un petit instant. Et vous allez me raconter, avant de commencer à chanter, de quoi il s'agissait très, très précisément. Petite manipulation, retire le casque. Vous allez chanter une chanson, je crois, que Jean-Roger Cossimon vous a envoyée, mais qu'il n'a jamais entendue.
Vous savez, il m'envoie des chansons à chaque mort de pape, alors qu'on... Ça, c'est la dernière. Je lui dis, je lui en veux, parce que, vous savez, il fait des choses que moi, je ne sais pas faire. Et il a un énorme talent. Il sait comment c'est fait, une chanson, vraiment. Beaucoup plus que je ne le sais, moi. Et je le dis sincèrement. Bon, il a envoyé ça au mois d'août. J'avais des copains à la maison, j'ai reçu ça, j'ai lu la chanson, j'ai été très ému. J'ai été au piano, je l'ai chanté tout de suite. Alors j'ai mis sa lettre avec son numéro de téléphone sur mon piano, et puis j'ai dit, ah ben je vais l'appeler. Quelques jours après, j'ai fait une cassette, et puis j'ai dit, je vais l'appeler au téléphone, et puis je vais lui faire écouter la cassette. Et puis j'ai pas appelé, et puis j'ai attendu, et ça fait tout de même depuis le mois d'août. Et il avait dû penser que je ne l'avais pas faite, parce qu'il pensait que je le faisais tout de suite. Or, je l'avais fait tout de suite, comme chacune des chansons qu'il me donne, n'est-ce pas? Mais de la négligence. C'est-à-dire que sinon, je l'appelle mon capitaine, parce que... Il est capitaine d'un bateau fantôme.
Et moi, il a déjà la casquette.
Hein. Ah, un bateau fantôme de Cossimon. Ouais, il est brumeux, ce type. J'aime bien la brume. Et alors, ça s'appelle Métaphysique Song.
Une grise, avec des numéros qui n'en finissent pas, au-dessus des portes fermées. Le pare-brise opaque des autos qui se suivent au pas, vitres teintées, noires de fumée. Un seuil d'église, d'où sort une mariée, gré de voile blanc, au bras d'un mari pour toujours. Mes trois valises, emplies de souvenirs lointains et encombrants, et vraiment de plus en plus lourds. Qui je suis, d'où je viens, où vais-je, j'ai vu, je m'en souviens, la Suisse et la Norvège. Les gens qui passent sont de chair et de sang, mais là, sur ce trottoir, ne disent jamais où ils vont. Qu'ils se dépassent, où se croisent, cessant se parler, sans se voir, sans même échanger leur prénom. Pas une place pour s'arrêter un peu et s'asseoir sur un banc, ainsi qu'un retraité d'État. Quand le vent chasse, là-bas au ciel d'été, l'envol des cormorans sur les falaises d'Étretat. Qui je suis, d'où je viens, où vais-je, j'ai eu un blazer bleu. Les klaxons des fourgons de police secours, les marteaux-piqueurs émigrés. Une ambulance où peut-être se meurt une de mes amours qu'avec le temps j'ai oublié. Cette existence, et tu l'as dit grand Will, n'est que bruit et fureur, le soliloque d'un idiot. Et le silence n'est plus qu'une rumeur de voix d'animateur et de jingles à la radio. Qui je suis, d'où je viens, où vais-je, j'ai mes tarpes d'or. Tel borgne où l'on me dit ici les chiens sont interdits, même sur des photos jaunies. Le mec qui lorgne mes trois valises qui pendant l'après-midi ont pris du poids et ont grandi. Quelqu'un qui cogne au mur de ses voisins qui font encore l'amour avec le dialogue assorti. Un flic, un cogne, habillé en plombier, demain au petit jour, viendra m'attendre à la sortie. Et je suis, d'où je viens, où vais-je, monsieur, je n'en sais rien.
Bravo, Léo Ferré, en direct de ce studio 135 de France Inter. Et c'est une chanson, évidemment, qui a tout à fait sa place dans cette émission, Roger Caussimon. Mais j'imagine, d'ailleurs, que quand on écrit des chansons, il doit bien y avoir quand même quelques phénomènes tout à fait bizarres, non, qui se passent.
Eh bien, voilà, je dois respirer un petit peu. Tout ce que je pourrais dire à Léo, ça serait au-dessus, c'est au-dessus. Et bien au-delà du bravo et du merci. Et je crois justement rêver en ce moment. Je suis très heureux.
Une chanson que vous enregistrerez.
Ah oui, bien sûr, mais je lui ai demandé de... Et étant donné qu'on n'a pas un âge de petit garçon, un de ces jours, on va se tailler de l'autre côté de l'imagination. Hein. Alors je lui ai dit, écoute, on va faire un disque nouveau tous les deux. Voilà. Alors, je crois que... Il y a travaillé déjà, il m'a apporté un texte tout à l'heure que j'ai vu, dont il veut changer un peu la fin, il veut travailler la fin, ça s'appelle La Guerre, et c'est pas mal du tout.
La chanson qu'on vient d'entendre, en tout cas, je rappelle le titre, c'est Métaphysique Song. Alors je vous propose une chose, donc c'est d'écouter maintenant, d'écouter quelques enregistrements que j'ai préparés pour savoir ce que vous en penseriez, l'un et l'autre. Il s'agit justement de ce qui se passe quelquefois de l'autre côté. C'est une histoire de revenant, c'est tout à fait bizarre. C'est l'histoire d'un non pas d'un crime posthume, mais de quelqu'un qui a vu se dérouler devant ses yeux quelque chose qui avait tout à fait l'air d'un assassinat, mais par des personnages qui venaient de très très loin apparemment. C'est un garçon qui s'appelle Henri Doutrelot, qui nous avait envoyé son témoignage, qu'on est allé le voir avec un magnétophone. Il nous a raconté, ça s'est passé en Belgique il y a quelques années, il était étudiant en médecine, et puis avec quelques copains, un jour, ils ont été invités à dîner dans une espèce de vieux manoir du 18e siècle, dans un endroit très très beau. Puis le repas s'est déroulé, et lui, Henri Doutrelot, a été... un peu fatigué, enfin, il y avait une espèce d'angoisse, il se sentait pas bien. Alors il est parti se coucher avant tout le monde, avec les plaisanteries de rigueur, évidemment, lui a dit qu'il tenait pas bien le coup. Il s'est retrouvé dans une chambre ancienne, qui n'avait certainement pas, dont le décor en tout cas n'avait certainement pas changé depuis le 18e siècle, dans un lit, enfin, vous savez, avec ses odeurs de vieille maison. Et puis, il était de plus en plus oppressé, de plus en plus angoissé. Et écoutez, voilà ce qui s'est passé ce soir-là.
À un moment donné... J'étais donc sur mon lit et je vois une forme féminine et je ne pouvais pas me tromper quant à la forme. C'était pas comme en plein jour, je ne pouvais pas voir aussi précisément que j'aurais vu en plein jour parce que c'était la nuit. Hein. Mais ce visage qu'on voyait dans une pénombre, mais comme s'il y aurait eu un éclat de lune. Or, il n'y avait pas de lune ce jour-là, mais un peu comme ça. Donc, il y avait quand même une espèce de lumière blafarde. Habillé, une espèce de robe longue. Cette forme semble se tourner vers moi. Enfin, en fait, elle ne devait pas se tourner plus vers moi que vers autre chose. Enfin, il se trouve qu'à un moment donné, le visage s'est tourné vers moi. Dire que j'aurais vu si elle avait des yeux bleus, des yeux verts ou des yeux noirs, ça, je serais forcément incapable de vous le dire. Mais je crois que je pourrais à peu près préciser le visage. C'était un visage assez régulier, avec une petite bouche, enfin, vraiment des traits féminins, il ne veut pas se tromper. Puis de toute façon, les formes étaient quand même là. Ce que j'ai vu après, c'est une forme, je présume masculine, il n'y a pas de problème, avec des espèces de basques, un habit à basque, quelque chose de long. Je ne l'ai vu que de dos, mais quelque chose de large quand même. C'était vraiment comme quelqu'un avec une carrure, donc ça pouvait être qu'un homme, à mon avis. La femme a dû lui tourner le dos aussi. Alors cet homme avait le bras... ainsi levé et frappant la femme avec ce que je dirais être un couteau ou un poignard, enfin, non, quelque chose de quand même très long. Et la femme s'écroule, elle s'écroule sur mon lit. Et l'homme repart curieusement parce qu'il était une penderie. J'ai vu la forme effectivement tomber sur le lit. Et cette l'autre forme, précisément, passer à l'intérieur de... Mais avec aussi autant de facilité que je mettrais mon couteau à travers le pain, enfin, sans problème. Hein. Il n'a pas ouvert la porte de la penderie, on n'a pas entendu de froid. D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que tout s'est passé comme si c'était muet. C'est ce qui était peut-être le plus étouffant. C'était comme si tout se passait sans bruit, comme si j'étais devenu sourd. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de bruit... Je ne sais pas, moi, quand on tombe, on fait même un bruit sourd. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui tombe fait un bruit sourd. Quelqu'un qui ouvre une porte fait un bruit sourd. Si petit soit-il. Là, pas de bruit. je ne peux pas vous exprimer ce que ça, l'impression que ça peut faire. C'est quelque chose de terriblement angoissant, peut-être plus que l'image.
Voilà donc le témoignage brut de ce garçon. Il a vécu ça il y a quelques années à peine, hein, et puis c'est un garçon tout à fait normalement constitué. Vous n'avez jamais vu de fantôme, Léo Ferré?
Non. Voilà, je sais pas, ça doit être impressionnant quand même de voir...
Surtout un assassinat. Hein.
Oui.
Enfin, deux fantômes, c'est rare quand même, hein, dans le Hyde Parade du bizarre.
Et puis trouver, quand même, s'il trouve ma chambre demain pour s'entretuer, ça m'ennuierait. On peut pas intervenir. D'ailleurs, pourquoi intervenir? C'est leur affaire.
Hein? Vous avez eu un coup de fil bizarre il y a pas si longtemps que ça.
Oui.
C'était en France ou en Italie? En Italie.
J'ai reçu un coup de téléphone, je décroche. Et c'est une voix de femme. Je dis allô, je voudrais parler à M. Ferré. C'est moi, madame. De la part de qui? Elle me dit, je suis la mort. Alors, j'ai dit, à quel sujet, madame? Elle m'a répondu, j'aime bien ce que vous faites. Et alors, je lui ai dit, moi aussi, madame, j'aime bien ce que vous faites.
Alors vous savez, quand on fait des émissions du type de celles que je fais, on reçoit beaucoup de courriers, beaucoup de gens qui finalement se confient et qui nous disent, d'ailleurs comme Claude Dufay me disait à l'instant pendant qu'on entendait de la musique, en entendant un témoignage, on pense à quelque chose d'autre.
Exactement.
On se dit, moi aussi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça.
On oublie parfois.
Ouais, et dans la vie normale, si le déclic ne se fait pas, c'est enfoui très très loin, puis quelquefois, ça ressort comme ça. Et on a eu beaucoup, beaucoup de courriers, par exemple sur les rêves prémonitoires. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont des rêves prémonitoires. Alors, quelquefois, c'est très compliqué, très symbolique. Quelquefois, c'est vraiment c'est effrayant de justesse. Par exemple, je pense à une femme qui m'avait envoyé une lettre où, dans la nuit qui a précédé les accords de Munich, donc en 1938, elle a rêvé l'exode. Elle s'est vue sur les routes en France avec sa famille et avec des précisions extraordinaires. Elle a vu la Loire, par exemple, couverte de papier et des colonnes de soldats qui allaient passer les ponts de la Loire, soldats français, qui n'avaient pas de chaussures et qui avaient les pieds enveloppés de bandages, de chiffons, de papier, etc. Et quand elle a raconté ça à ses parents le lendemain matin, on lui a ri au nez, quoi, parce qu'on venait de sauver la paix. Enfin, c'était l'accord de Munich, c'était pas. On ne pensait plus à la guerre, on était soulagés, au contraire.
Nous étions les plus forts encore à cette époque-là.
Et ses parents lui ont dit, comment, t'as vu l'armée française comme ça? Bon. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est exactement ce qu'il y avait dans son rêve, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans le même décor. Elle a même vu dans la réalité des visages de gens qu'elle ne connaissait pas dans son rêve, mais dont elle se souvenait. Et quand ils sont arrivés au bord de la Loire, effectivement, il y avait beaucoup de papiers parce que les gens essayaient de s'alléger au maximum et jeter dans la Loire des cartons, des valises. Ces valises s'ouvraient et les papiers en sortaient et couvraient le fleuve. Ça, c'est pour vous donner un exemple de rêve prémonitoire vraiment... fantastique. Et Jean-Roger Clos-Simon, vous m'avez dit quand on a préparé cette émission que c'est pas ça, mais que vous avez eu quand même un rêve qui a été tout à fait prémonitoire et qui a été très important pour vous, pour votre vie.
Oui, bien sûr. J'avais le plaisir de rencontrer celle qui devait devenir ma femme. Et nous avions une relation simplement amicale. Nous avions des amis communs. Et elle demeurait à ce moment-là dans une ville de la Loire. Et je l'ai perdu de vue pendant 4 ou 5 ans, mais tout à fait, je n'ai plus eu l'occasion de parler d'elle, j'ai perdu de vue au point d'oublier son visage et son prénom. Je vais en tourner et à Lyon, un matin, en faisant prosaïquement ma toilette, je me dis tout à coup, mais j'ai rêvé cette nuit de cette jeune femme. Comment s'appelait-elle? Je ne trouve pas son nom du tout. Je ne trouve pas son nom. La journée se passe et le soir, vers 7 heures, je cherche avec un camarade un restaurant. Les restaurants lyonnais ne servent pas avant 7 heures. Et moi, j'avais besoin d'être au théâtre assez tôt. Ce qui fait que je me promène dans la rue en compagnie d'un camarade. Il y a tout un chemin du destin que je parcours. Et non, monsieur, nous ne servons pas avant 7 heures. Non, on va chercher ailleurs. On va traverser la rue. On traverse la rue. Et mon camarade... Le camarade qui était avec moi avait ce charmant penchant de regarder les jolies femmes qui passaient. Et il en voit une qui s'arrête et qui me regarde et qui dit c'est Jean Roger. Et lui dit oui, c'est Jean Roger, venez. Bon. Et je reconnais cet ami que j'avais connu 5 ans plus tôt et que j'avais absolument perdu de vue. Et elle me dit son prénom et son prénom me revient en effet. Et voilà. Et je n'avais, c'était un rêve prémonitoire, de rencontre, mais je n'avais pas, il ne m'avertissait pas de tout ce qui allait m'arriver à la suite de cette charmante rencontre.
En tout cas, c'était la preuve que vous n'aviez pas rêvé.
Oui, oui. Mais je crois que Lyon, d'ailleurs, était une ville peut-être qui était propice à ce genre de signes, puisque mes parents m'avaient fait la confidence que j'y avais été conçu.
Ah, alors, Jean-Roger Cossimon, vous êtes venu avec un enregistrement. Ce soir, on va passer beaucoup de chansons inédites que personne n'a jamais entendues. La chanson que Léo Ferré a chantée tout à l'heure, c'était vraiment la première fois ce soir. Oui. Et là, vous êtes venu avec une nouvelle chanson.
Avec la bande du disque Mon Prochain 33 qui doit sortir dans une dizaine de jours.
Alors, on va écouter tout de suite une de ces toutes nouvelles chansons de Jean-Roger Cossimon.
Schizophrénie, ma souveraine, mon seul amour, ma grande amie, c'est moi, ton vieil schizophrène. Ich liebe dich, do you love me? Si tu m'accueilles, tu me sauves, Lily Marlène et Ophélie. Comme un enfant voit, je me love dans les draps mauves de ton lit. Ferme la porte et la fenêtre, la ville n'est plus qu'un décor. Il fait un temps à ne pas mettre un chien ni son maître dehors. Allons sombrer dans la rivière, d'un long sommeil, tels deux gisants. J'oublierai qu'à leur frontière, des soldats meurent à 15 ans. Elle est venue, l'air glacial, et la vieille Europe n'est plus qu'un champ de foire commercial. La colombe est prise à la glu. Ferme la porte et la fenêtre. Le pétrole flambe avec l'or. Il fait un temps à ne pas mettre un chien ni son maître dehors. Sans s'attendrir au clair de lune où s'effiloche un vieux drapeau, les malins planquent leur fortune et vont vouloir sauver leur peau. Que l'on s'attarde ou fasse vite, on est en plein collimateur. La mort voyage en satellite, le destin c'est l'ordinateur. Ferme la porte et la fenêtre, nous aurons tous le même sort. Il fait un temps à ne pas mettre un chien ni son maître dehors. Schizophrénie, mon doux suicide, achève-moi de ton amour. Il n'est plus rien qui me décide à retrouver le gris des jours. Je dis cela, mais je balance, faut-il en rire ou en pleurer? Entre le bruit et le silence, entre partir et demeurer. Ouvre la porte et la fenêtre. En moi, tout espoir n'est pas mort. Et je verrai passer peut-être
un chien et son maître dort. Je verrai passer peut-être un chien et son maître dehors.
Zofrène, donc une toute nouvelle chanson de Jean-Roger Cossimon qui va sortir sur disque dans quelques temps. Léo Ferré, on peut revenir un petit peu à nos sujets bizarres, étonnants, parce que on avait bavardé de tout ça il y a quelques jours et on avait raconté une histoire vraiment difficile, effectivement difficile à croire, mais qui a dû compter beaucoup pour vous dans votre vie. C'est vraiment l'événement, c'est ce qui passait à l'Olympia.
Oui, puis à la radio c'est difficile, il faut me voir raconter ça parce que je fais des gestes en refaisant ce type un peu que j'ai vu. C'était en 72 à l'Olympia, le premier soir. Dans la rue des artistes, il y a un garage où je mettais la voiture, un parking, et je sors, je rentre, j'arrive devant la loge, il y avait un type comme ça, et immédiatement, comme la pensée va beaucoup plus vite que le temps de la raconter d'ailleurs, je me dis en voyant, je dis, toi t'as été quelque part, t'as été mettre un nez, t'as demandé un front de machin, puis t'étais trompé, t'étais pressé, alors ça va pas bien, quoi. Ce type, il avait des lunettes, il avait le sourire, il parlait pas, il a tendu la main, il dit, bonjour monsieur, bon, je suis rentré dans la loge. J'arrive en scène, il était deuxième rang. Bon, je l'ai recollé parce que le premier, deuxième rang, à l'Olympia, on voit déjà, on devine en tout cas. Le deuxième jour, j'arrive, toujours au même endroit, même type, ça, avec la main tendue, je me suis, je rentre. Le troisième jour, alors je vais en scène, au deuxième rang, l'autre côté, d'autre droite.
Quelques minutes après, donc.
Alors là, il avait le temps de rentrer.
C'est quoi. Ça, ouais.
Bon. Le troisième soir, j'arrive, la même chose, je me dis, c'est quand même ce type, c'est un admirateur, bizarre, il ne parle pas, il dit tout, quoi. Je rentre, je sors, et la même chose, il était encore, je le vois encore dans la salle, quoi. Bah, ça commençait à me faire un peu d'effet, quand même. Et le quatrième soir, c'est le dernier soir où je l'ai vu, je n'ai jamais vu ce type. Hein. Le dernier soir, je sors du parking, donc j'ai la rue à traverser un peu en biais pour arriver à la porte des artistes de l'Olympia, et je vois le type là-bas. Il était vraiment reconnaissable. Il était à 40 mètres. Il regardait la maison d'en face, l'autre trottoir. C'est-à-dire qu'il ne me regardait pas, moi, quoi. Je le regardais. Et je rentre à l'Olympia, entre les artistes. J'arrive dans la loge. Il était là, comme ça. Alors, ça m'a fait un peu froid dans le dos, là. Je dis, putain, il a eu de ce type, hein. Comme
il était dans la rue, quelques secondes avant, et...
Oui. Et alors, à ce moment-là, je rentre derrière les portants, enfin, en coulisses, quoi. Au moment où je vais rentrer en scène, il était avec moi derrière, là. Il était avec moi. Il m'avait suivi, il était encore là. Et c'est le dernier soir, hein. Je suis rentré en scène, j'arrive, il était au deuxième rang. Voilà. Et alors, quelques temps, là, je faisais une tournée avec Charles Bois, chanteur canadien, que j'aime beaucoup. Donc en février 73, il y a des jeunes étudiants qui sont venus, je ne sais pas, ils faisaient partie d'un groupe. Ils avaient un agra. Donc je dis, quand on a un agra, on sait le faire marcher, quoi.
L'agra, ça m'a interrogé.
Comme c'était une chose qui m'avait impressionné et qui était récente, parmi d'autres choses, j'ai raconté ça, comme je viens de le raconter. Et je monte en scène, que j'arrivais assez tard, un peu après... un peu avant que Charles Bonne finisse, il avait le temps de débarrasser sa sono, puis moi je rentrais en scène, et je rentre, ils étaient tous agenouillés, ils en avaient une dizaine, devant le nagra, et le type qui avait enregistré me dit, vous savez, M. Ferré, alors, rien n'est passé, parce que rien n'a été enregistré.
C'est-à-dire que le magnétophone n'avait pas fonctionné.
Non, alors voilà,
alors ça, non,
le côté
sens,
comique, je ne vais pas dire autre chose, parce qu'il y a un truc comique, qui est drôle, parce que ça vaut le coup d'être dit. Quelques temps après, je vais en Suisse, une émission qui s'appelle Les Oiseaux de Nuit, à Genève. J'arrive, je chante, puis je vois un type que j'avais vu 20 ans avant, il me dit, vous savez, vous rappelez, j'aurais fait de la radio ensemble, on fait la radio. Et je lui dis, venez demain, tout à l'heure. Je dis, venez plutôt vers 6 heures. Et il me dit, ah oui, ça m'arrange, parce que ma mère est malade, je vais la voir à l'hôpital, etc. Et là, à 6 heures, il arrive à l'hôtel où j'avais dans le rendez-vous. Je vois le type rentrer avec trois magnétophones, comme ça, portables, quoi. Je dis, oui, alors vous avez du matériel, vous, alors, hein. Et il me dit, oui. Parce que je vais les faire marcher tous les trois en même temps, parce que j'ai écouté votre émission hier soir, où vous m'avez dit que cette histoire ne passe pas. Alors, moi, je veux l'enregistrer. Voilà.
Et ce jour-là, le magnétophone a fonctionné.
Oui, c'est ça qui est drôle.
Et quel rôle ce personnage
a joué
dans
votre vie? Parce que là, ça a changé, ça a changé.
Ça a vraiment changé votre vie.
Ma vie, oui. Ça a changé ma vie.
Vous parlez de votre vie professionnelle. Oui. Professionnelle.
Oui. Ça a changé ma vie, oui, en général, quoi. Vraiment, il y a un grand changement de vie qui s'est passé. Et je sais pas si...
On a le temps, on a tout le temps.
Je peux vous raconter un truc extraordinaire, si.
Bien sûr. Et comment?
Oui, parce qu'il y a, chez moi, il y a je dis un individu, qui sait quoi, quelqu'un qui intervient dans ma vie, comme ça. J'ai chez moi, j'ai une imprimerie, j'ai un numéroteur. Le numéroteur, chaque fois que vous appuyez, le numéro change. Soit vous n'avez pas besoin de changer. Vous savez? Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Un jour, je me rappelle, je notais des partitions du mal-aimé, des partitions d'orchestre du mal-aimé, pour les musiciens. Et j'ai été, je me refais, numéro 19, on m'appelle pour manger. Alors je vais manger, et puis je reviens, et sans regarder. Je prends la page 20, puis tchac, et là je vois 77. Alors je dis quand même, j'ai gueulé comme un âne, j'ai dit qu'est-ce que vous venez, j'ai vu mon fils qui était un peu petit quand même, il faisait pas de j'ai dit qu'est-ce que vous faites comme ça, ne venez pas m'embêter. Ils m'ont dit non, j'avais mes jeunes beaux-frères qui étaient très jeunes à ce moment-là, parce que vous savez que j'ai une femme très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Alors il y a forcément des frères qui sont, voilà. Et alors ils ont un peu grandi maintenant quand même, il y en a un qui mesure 1m82, qui s'appelle Manuel. Bon. Et alors, imaginez-vous que, bon, quelques temps après, je ne sais pas, 3 ou 4 jours après, écoutez bien ça, c'est extraordinaire. Je recommence à numéroter des trucs, quoi. Alors j'arrive à la page, mettons, 30, 31, tu vois, et on m'interrompt encore. Je ne suis pas au manger, bon, je laisse mon numéroteur, bon, et puis je vais manger, je fais quelque chose, je reviens. Pouf, 509. Ah, alors j'ai dit ça, c'est plus possible. Puis, je n'ai même pas été gueulé, parce que j'avais tellement gueulé que personne ne s'était risqué à venir changer mon numéroteur. Hein. Bon. Alors, 509. Alors, moi, j'ai fait une... J'ai dit que 509, ça veut dire 509. 509. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma nièce, qui est dans l'Allier, se mariait le 6 septembre 1974. Non, 1975. Voilà. C'est important. Elle se mariait le 1975. Et moi, je partais avec mon petit Mathieu, qui était tout petit, qui avait donc qui avait 5 ans, et Marie n'était pas là, je devais la rejoindre chez ma sœur dans l'Allier. Je devais prendre le train à 6 heures, à Florence, m'arrêter à Milan, 2 heures, prendre un autre train qui va à Paris, m'arrêter à Dijon. Mon neveu, qui avait une voiture, m'attendait pour me prendre, était à 3 heures de là, il fallait arriver... pour rejoindre mes parents, ma sœur, ma femme et tout, et mon beau-frère et mes neveux, dans un restaurant où on mange la veille du mariage. Et alors, je me suis rendu compte à ce moment-là, j'ai repensé autour du numéroteur, avant de partir, j'ai vu 509, je me dis 5 septembre.
5 septembre.
Hein? Et alors, je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Le train, avec mon fils, changé. Hein? Je change à Milan. Je dis à Mathieu, ne me quitte pas. Hein? Et il me dit, non, papa. Alors et tout d'un coup, je vois un type avec une mine patibulaire. Je voyais des mines patibulaires partout, forcément. Avec les cheveux frisés, il descendait comme ça. Il me regardait, il regardait mon fils. Ou en tout cas, je pensais. Tout d'un coup, je me suis précipité sur lui. J'ai dit, et alors, qu'est-ce que vous voulez, vous? Il m'a dit, il m'a regardé. Comme ça, comme si j'étais vraiment un type d'ailleurs. Quoi. Qu'est-ce que c'est, ce mec avec ce... J'ai pris le train. Et mon fils me dit une chose énorme, qui m'a fait râler dans le compartiment où il y avait un silence, le train était bondé. D'un coup, il a un peu l'accent, il me dit, mon fils, et il me dit, papa, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai écouté, il me dit, j'aime les gens. Comme ça. Je vous dis ça parce que ça m'avait frappé. J'arrive à 8h, 7h30, 8h, au train. Mon neveu m'attendait à Dijon, il me prend la voiture, il y avait le brouillard, et puis il allait vite, j'ai dit, dis donc. Tu conduis bien? Tu connais bien, oui. Il me dit, oui, je connais très bien, très bien. Et je me disais, il faut que j'arrive à minuit.
Il va se passer quelque chose.
Oui, oui, oui. Alors, j'arrive, on arrive là-bas. Je mange. Ma femme n'attendait pas son fils. Je lui avais apporté son fils comme ça, sans lui dire. C'est pour ça que tout ça m'ennuie, vous comprenez? Et alors, imaginez-vous que je finis. Et à minuit, minuit 2, je dis, ah, maintenant, je vais vous raconter. À ce moment-là, ma sœur, qui est pharmacienne dans l'Allier, ne me laisse pas finir. Elle me dit, tu sais, Léo, aujourd'hui, j'ai reçu... un coup de téléphone d'un monsieur de Paris qui est un producteur de spectacle. Alors, pour le Palais des Congrès, avec l'orchestre, c'est d'accord.
On avait appelé ça les objets malins, nous, l'année dernière, quand on avait reçu beaucoup d'histoires de ce type-là. Oui. Les chiffres en folie, comme ça. Oui. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission et on avait convenu que on terminerait cette émission en direct également, puisque vous avez commencé en direct, on va peut-être se quitter comme ça. Je vous laisse juste le temps de rejoindre le piano, et je crois qu'il n'est pas tellement besoin de présenter ce qu'on va entendre.
Que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. Allez, viens avec moi, je t'emmène en voyage avec Baudelaire. Viens.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble.
Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis, ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas dès ce jour le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre, il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière, la nuit, c'est le jour.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, et les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre.
Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin de rue sont aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, là, tout n'est qu'ordre et beauté. Mais viens, luxe. Allez, viens! Mais volupté.
Voir sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde.
Désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur, les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Et
là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté.
Allez, viens, viens, viens avec moi, viens, viens, viens. Le code civil. Nous en parlerons plus tard, le code civil. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes, des momocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge, par manque de lucidité.
La lucidité se tient dans mon froc.
Merci, Léo Ferré. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être pour parler de ces sujets, peut-être pour parler d'autres sujets.
Merci à vous.
En tout cas, je pense que les chansons qu'on a entendues, c'est un peu
elles
ce qu'on
ont enrichi considérablement notre soirée. C'est
voilà.
Vrai.
Et ben, il est l'heure de se dire au revoir. Je dis au revoir, Claude Dufresne.
Eh bien, au revoir, Jacques. Au revoir, Léo Ferré.
Au revoir, Jean-Roger Cosimo.
Et puis, à la semaine prochaine, bien entendu.